La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de vous retrouver, de nous retrouver pour le quatrième et dernier temps de cette semaine consacrée à Goethe. Goethe, cet écrivain, dramaturge, poète et homme de science, né à Francfort en 1749 et mort à l'âge de 82 ans à Weimar, duché où il passa l'essentiel de sa vie. Une vie longue puisqu'elle fait le pont entre le monde de Jean-Sébastien Bach par exemple, qui meurt un an après la naissance de Goethe, et celui de la symphonie fantastique de Berlioz, jouée l'année de sa mort. Goethe a été témoin de l'invention de la machine à vapeur et des premières lignes de chemin de fer. Bref, il ouvre la voie au XIXe siècle, dont il a connu le premier tiers, comme nous l'a expliqué Sylvie Lemoyle au cours de notre premier épisode. C'est à l'œuvre que nous nous sommes intéressés ensuite, grâce à Claude Roels qui a détaillé pour nous ses grandes caractéristiques et aussi la manière dont on peut la lire aujourd'hui au cours d'une émission disponible sur franceculture.fr et dans l'appli Radio France. Enfin hier, Jacques Le Rider nous a conduit sur les traces du Faust de Goethe, mythe allemand capital et obsession de l'écrivain. L'occasion d'interroger aussi le thème de la puissance et de la démesure sous-jacent dans la pièce. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler d'abord du voyage en Italie de Goethe, puis de son traité des couleurs, nous sommes en compagnie de Jean Lacoste, agrégé de philosophie, docteur en études germaniques avec une thèse sur les écrits scientifiques de Goethe, publiée ensuite sous le titre Goethe, science et philosophie aux presses universitaires de France en 1999. On lui doit aussi l'essai Goethe, la nostalgie de la lumière chez Belin en 2007, ainsi qu'une édition de son voyage en Italie aux éditions Bartilla en 2003, disponible aujourd'hui en poche dans la collection Omnia. Bienvenue à toutes et à tous, voici la Compagnie des œuvres.
On avait coutume de m'appeler le confident et aussi le voyageur à cause de mes courses vagabondes dans la contrée. Cet apaisement de mon cœur, je ne le trouvais qu'en plein air, dans les vallées, sur les hauteurs, dans les campagnes et les bois. Et je l'avais à ma portée, grâce à la position de Francfort, entre Darmstadt et Hambourg. Deux séjours agréables, qui étaient en bonne intelligence à cause de la parenté des deux cours. Je m'accoutumais à vivre sur la route, allant et venant comme un messager, de la montagne à la plaine. Seul ou en compagnie, il m'arrivait souvent de traverser ma ville natale, comme si elle m'eût été étrangère. Je dînais dans une des grandes auberges de la Fargas, après quoi je poursuivais ma route. Plus que jamais, je cherchais le vaste monde et la libre nature.
Une lecture par Michael Cohen d'un passage de Poésie et Vérité, ce livre où l'écrivain évoque ses souvenirs. Bonjour à vous, Jean Lacoste. Merci d'être avec nous par téléphone. Alors, dans la préface de votre édition au voyage en Italie de Goethe, vous expliquez pourquoi vous aviez préféré finalement ce titre, Voyage en Italie, plutôt qu'un autre, par exemple, Voyage italien, qui aurait pu convenir également. Mais pour vous, il y a une nuance et j'aimerais qu'on commence comme cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nuance et ce titre ?
C'était une façon de marquer quel était le but voyage, qui aurait pu être un voyage un petit peu subjectif, un peu à la manière de Montaigne, et j'ai voulu souligner en choisissant un voyage en Italie, la dimension surprenante d'ailleurs d'objectivité. Le livre, quand il a été publié en 1829, a, comme souvent les œuvres de Goethe, a surpris et désarçonné son public qui n'a toujours comment dire, qui n'a jamais compris au fur et à mesure les évolutions de Goethe. Et en qualifiant de voyage en Italie, il montrait que Goethe, faisait une œuvre d'objectivité, de description objective du voyage. Et en même temps, ce livre, comme vous l'avez rappelé, a quelque chose de testamentaire, puisqu'il est publié 3 ans avant la mort de Goethe, en 1829, et l'intègre à un ensemble de textes d'ordre autobiographique. C'est à la fois un livre qui est tout entier tourné vers l'Italie, vers sa description, et en même temps qui est profondément, pour des raisons qu'on peut développer, profondément autobiographique et qui correspond même à, une césure très importante de son existence.
Alors on va en parler, hein, évidemment. On peut, déjà pour commencer, poser la question de savoir pourquoi il est parti, parce qu'il part dans des circonstances assez étonnantes, oui, pour ainsi dire, sur un coup de tête, Jean Lacoste.
Oui, il part en 1786 de Karlsbad en Bohême, une ville d'eau où il était avec la cour du duché, et il part dans la nuit, à 3h du matin, dit-il, sans prévenir qui que ce soit. Ça représente, je ne sais pas si c'était un coup de tête, mais peut-être une décision mûrement réfléchie, mais en tout cas une décision tout à fait secrète.
En tout cas, une crise existentielle peut-être.
Oui, une double crise en fait. C'est-à-dire que depuis 10 ans, depuis son arrivée à Weimar, il avait rempli toutes sortes de fonctions. Il avait servi comme Herder de factotum, s'occupant à la fois des finances, de l'armée, des différentes célébrations, du théâtre, une activité de ministre dans toutes sortes de domaines. Et il a voulu rompre avec cette obligation qui pesait sur lui, qui l'empêchait en fait de devenir un écrivain, puisqu'en fait c'est une période de relative stérilité qu'il venait de traverser.
Et on va voir que c'est peut-être, Jean Lacoste, un moment charnière dans son existence, à beaucoup de points de vue. Pour continuer de raconter ce départ un petit peu précipité, il faut donner quelques détails. Ça se passe le 3 septembre 1786, il a 37 ans, et il va quitter à 3h du matin la ville d'eau où il se trouve, Karlsbad, pour s'enfuir. Enfin, on a presque l'impression d'une fuite, et il ne va prévenir personne.
Oui, il va rester silencieux pendant plusieurs semaines, et cette rupture, cette césure, cette fuite, cette hégire, comme dit-il, pour une sorte de comparaison avec Mahomet, ce départ a une double signification. Comme je disais, il va tirer un trait avec ses activités officielles dans lesquelles il avait d'ailleurs fait merveille, et aussi avec une relation assez énigmatique avec une aristocrate de la cour de Carlo.
De Weimar.
Oui, de Weimar, Charlotte von Stein. Oui. Et celle-ci avait exercé une influence très profitable, peut-on dire, pour rendre un peu moins rugueux le jeune homme qu'il était quand il est arrivé après la publication de Werther. Mais il est probable que cette relation s'accompagnait d'une certaine frustration dans laquelle il est difficile d'aller, faute de documents, et il rompt ici avec elle. Donc c'est une double césure, une double rupture, qui fait vraiment donc du récit du voyage en Italie un élément important d'une entreprise autobiographique qu'elle appartient aussi Poésie et Vérité, et puis c'est un certain nombre d'écrits autobiographiques publiés par Jacques Le Rider.
Alors, ce qui est amusant, Jean Lacoste, avec ce départ de Goethe pour l'Italie, c'est la façon dont il voyage. Il part un peu à la façon d'un Paul Morand, comme un homme pressé, en chaise de poste, avec pas beaucoup de bagages, avec des pistolets de poche, des manuscrits, quelques livres. Enfin, on sent qu'il veut aller vite, il veut courir. Et puis, il a pas peur du danger, que ce soit sur terre comme sur mer, parce qu'il prend le bateau pour aller en Sicile. Donc, est-ce qu'on découvre pas là un Goethe, peut-être pas aventureux, n'exagérons rien, mais enfin, en tous les cas, comme ça, sous la forme d'un homme pressé?
Il faut bien voir effectivement que le voyage qu'il a entrepris ne ressemble pas à ce qu'on appelait dans l'aristocratie, la bourgeoisie, un grand tour, allant comme ça de monument en monument pour se cultiver ou faire semblant de se cultiver. Il y a là vraiment une pulsion, il dit lui-même, alors il emploie ce terme un peu freudien par avance, de tribe, de pulsion qui le pousse effectivement à dévaler à toute allure à partir de Carlsbad, le chemin qu'il mène vers l'Italie et le Pô et Venise et puis Rome. Par exemple, il passe 3 heures à Florence, ce qui nous paraît...
Oui, pour quelle raison, si peu de temps ?
Je crois que tous les tableaux, les peintures de la région étaient imprégnés de thèmes religieux et de martyrs et de souffrances. Et ce n'était pas la vision de l'Italie qu'il voulait avoir. Et donc, il ne s'intéressait pas véritablement aux œuvres de cette époque.
Alors, il visite Venise aussi, qu'il aime beaucoup.
Alors oui, en Venise, à l'inverse, le séduit pour deux raisons. C'est d'abord un vieux souvenir d'enfance. Son père, qui avait lui fait un voyage en Italie, avait même écrit une relation en italien de ce voyage, lui avait rapporté une gondole, comme on rapporte un jouet d'un voyage. Et cette gondole, eh bien, le souvenir de cette gondole lui surgit quand il voit Venise et évidemment le Grand Canal. Et puis alors en plus, le Goethe, j'allais dire visionnaire, le Goethe vise surtout visuel et très séduit par la lumière, par les effets de la lumière et de l'eau sur la lagune. Il trouve là, pour la première fois, l'Italie qu'il cherchait, c'est-à-dire cette Italie objective et... comment dire, de la perception.
Oui, et alors pour découvrir cette Italie qu'il recherche comme ça confusément depuis l'enfance presque, il décide de voyager incognito. Alors ça aussi c'est un petit peu étonnant parce que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement connu depuis les souffrances du jeune Werther, mais il ne donne pas son nom, dès l'Allemagne, il ne donne pas son nom à la première auberge à laquelle il s'arrête à Ratisbonne.
Bien plus, il prend un pseudonyme, il va vouloir voyager tout à fait incognito, et il prend un pseudonyme, et ce qui est assez intéressant et significatif, il se fait appeler Müller, on ne peut pas faire plus banal, mais il se présente comme un peintre allemand. Et ça correspond à la tentation qu'il a, à l'interrogation qui l'alimente, est-ce que ma vraie vocation... ce n'est pas celle d'un peintre ou d'un dessinateur, enfin un homme du domaine plastique. Et c'est quelque chose qui va motiver certainement sa descente en Italie, et surtout, parce que ce voyage en Italie, c'est aussi d'abord une sorte de séjour en Italie, puisqu'il reste 2 ans, en fait, plus ou presque 2 ans.
Oui, alors il va se rendre compte justement que il n'est peut-être pas un artiste dans l'ordre des arts plastiques, et c'est la confrontation avec les arts italiens qui font qu'il a cette révélation.
C'est surtout qu'il est... Oui, il arrive à Rome. Là, on mélange un peu les périodes, si vous voulez, mais quand il arrive à Rome, après donc cette course qui le conduit si rapidement à traverser le nord d'Italie, donc il est accueilli toujours avec un anonymat qui ne trompait personne, un incognito qui ne trompait personne. Il est accueilli par les peintres de la colonie allemande, enfin la colonie allemande de peintres allemands, et notamment de Tischbein. Et il va donc fréquenter tous ces peintres, apprendre à leur contact, découvre qu'il a un certain talent, mais qu'il n'a pas vraiment le talent nécessaire pour devenir un peintre. Et c'est la leçon assez, comment dire, de sobriété qu'il va en tirer finalement. Après 2 ans en Italie, il va revenir à Weimar, abandonner la plupart de ses fonctions officielles, ministérielles, etc., pour se consacrer l'écriture, pour se consacrer à la littérature, qui sera sa vraie fonction, sa vraie vocation.
Alors revenons donc à notre chronologie et à cet incognito, notamment au début de son voyage. Il y a quand même quelques scènes cocasses qu'il faut peut-être raconter ou tout du moins évoquer, Jean Lacoste. C'est quand il croise des personnes qui lui disent « Ah, mais vous êtes, vous venez de Weimar, mais peut-être connaissez-vous l'auteur des Souffrances ».
Que devenu ce jeune Goethe qui faisait la pluie et le beau temps avec les souffrances du jeune Werther. Goethe acquiesce en disant ce voyage m'a fait effectivement m'a modifié, m'a transformé, m'a changé en profondeur. Et on pourrait d'ailleurs dire que l'un des thèmes vraiment de ce voyage est celui de la métamorphose. Ce voyage est un long séjour en métamorphose, puisque le Goethe va revenir à Weimar profondément changé dans ses orientations.
J'ai passé en silence les heures les plus agréables dans le jardin public, tout près de la rade. C'est l'endroit le plus merveilleux du monde. Les plantes ont une verdure à laquelle nous ne sommes pas accoutumés, tantôt plus jaunâtre, tantôt plus bleuâtre que chez nous. Mais ce qui donnait à l'ensemble une grâce singulière, c'était une forte vapeur qui se répandait sur tout uniformément, avec un effet si remarquable que les objets, à la distance de quelques pas seulement en arrière les uns des autres, se distinguaient par un ton bleu clair plus prononcé, en sorte que leur couleur propre finissait par se perdre, ou que, du moins, ils s'offraient à l'œil fortement azuré. Le singulier aspect que cette vapeur donne aux objets plus éloignés, aux vaisseaux, aux promontoires, est pour l'œil de l'artiste un effet assez remarquable en ce qu'il peut distinguer nettement et même mesurer les distances. Aussi, une promenade sur les hauteurs en devient-elle ravissante. On ne voit plus la nature, on ne voit que des objets peints, comme l'artiste le plus habile les aurait détachés les uns des autres par des tons azurés. Mais l'impression de ce merveilleux jardin s'était gravée en moi trop profondément. Les flots noirâtres à l'horizon boréal, leur lutte contre les courbures des anses, l'odeur particulière de la mer vaporeuse, tout rappelait à mes sens et à ma mémoire l'île des heureux Phéaciens. Je courus acheter un Homère pour lire ce chant avec une grande jouissance et en improviser une traduction à Knippe qui, après un travail opiniâtre, méritait bien de se reposer en buvant quelques rasades de bon vin.
Compagnie des œuvres sur France Culture et cet extrait du Voyage en Italie écrit depuis Palerme par Goethe, lu par Georges Perron. Jean Lacoste, est-ce que ce passage vous semble représentatif un peu de l'ensemble du livre? Est-ce qu'il donne une bonne idée aux auditeurs de ce voyage en Italie?
Oui, c'est comme je disais, Goethe est un grand visuel et donc là on le voit bien, il est attentif à saisir les nuances de la perception. C'est une de ses obsessions, ça, de comprendre la perception vivante, c'est en cela qu'il peut prétendre à être peintre aussi, à être lui aussi peintre, puisque c'est ce qu'il cherche, il cherche à saisir. Et puis il y a aussi cette description, cette présence presque de très matérielle, très, très vivante, sans phare de réalité d'un voyageur. Il se plaint des punaises, des lits, des auberges. Il s'intéresse à la fabrication des macaronis. Il assiste à des séances de tribunaux à Venise, par exemple. Il y a une curiosité envers le quotidien de l'Italie qui a comment dire, qui a surpris et choqué les lecteurs de l'époque romantique, mais qui pour nous sont extrêmement précieux, parce que c'est toute l'atmosphère de ce XVIIIe siècle dans sa vie quotidienne qui est évoquée dans les pages, dans certaines pages, enfin dans de nombreuses pages de ce livre, même si il y a aussi d'autres considérations esthétiques, puisque tout le voyage est une profonde réflexion esthétique sur ce que doit être la peinture.
Oui, et puis aussi, donc il y a en effet le quotidien, le XVIIIe siècle italien, mais il y a aussi l'Antiquité. Il y a le thème d'Ulysse, finalement, qui est derrière ce livre qu'on retrouve, et puis les références à Homère qu'on entendait aussi dans cet extrait.
On pourrait même dire, enfin, sans faire de, je sais pas, de psychanalyse, mais il y a vraiment
vous pouvez dire chez Freud aussi, parce que c'est vrai que tout cela est très lié.
Voilà, chez Goethe, un syndrome d'Ulysse, c'est un thème qui revient perpétuellement dans son œuvre, du voyageur qui arrive incognito, qui séduit une jeune femme et qui finalement repart poursuivre son chemin mystérieux dont on ne connaît pas le but. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'existence même de Goethe, est arrivé à plusieurs reprises.
Donc c'est une sorte de complexe d'Ulysse, pourrait-on dire?
Absolument, oui, le complexe d'Ulysse, du voyageur qui arrive nu et après un naufrage sur une plage. Le complexe de Nausicaa, si vous voulez, c'est-à-dire cette jeune princesse des Phéaciens qui tombe justement amoureuse du voyageur mystérieux qui raconte la guerre de Troie et avec toutes ses aventures et tous ses risques.
Et d'ailleurs, il avait pensé écrire une tragédie sur sur le personnage de Nausicaa.
Nausicaa, oui. Et c'est un des fruits des plus secrets de ce voyage que cette figure féminine de Nausicaa qui se suicide quand le voyageur s'en va poursuivre son...
Alors, évidemment, l'horizon de ce voyage, c'est Rome. Il est quand même pressé d'arriver à Rome. C'est la ville qui le fait rêver. Et c'est là qu'il imagine, en priorité, sa nouvelle vie, sa vita nova, Jean Lacoste.
Ah oui, donc Rome, c'est vraiment le but du voyage. La Rome antique. Beaucoup plus, bien entendu, que la Rome religieuse qui l'indiffère, même si il manifeste de l'intérêt pour la vie musicale de la ville éternelle, comme on dit. Pourquoi Rome? C'est parce que effectivement, c'est l'Antiquité, c'est la leçon de l'Antiquité qui va devenir au centre de son esthétique. Et qui était déjà une esthétique qui était déjà préfigurée par les théories, les ouvrages de Winckelmann.
Et c'est quoi cette esthétique alors? Est-ce que c'est le goût pour l'ancien? Qu'est-ce que c'est le classicisme?
C'est le néoclassicisme, c'est-à-dire vraiment la volonté de retrouver dans sa force et dans sa pureté à la fois le corps humain et la relation avec la nature. Il va essayer d'introduire cette esthétique néoclassique un peu froide effectivement par rapport à ce qu'il peut y avoir de chatoyant et de vibrant dans la peinture, mais il va essayer d'introduire cette esthétique quand il sera revenu à Weimar et qu'il cherchera à organiser et à orienter la production la production des artistes qu'il va essayer d'aider, avec un succès très limité, parce qu'il était évidemment, encore une fois, à contre-courant de la sensibilité romantique qui triomphait ailleurs.
En tout cas, il est certain que pour lui, la ville de Rome est une renaissance. Ça le sera aussi pour un certain nombre de ses lecteurs, comme Gide, par exemple.
Je me souviens aussi avec grande précision, je dirais presque de la position que j'avais prise. Je lisais debout quand j'ai découvert les élégies romaines de Goethe. Cela a été un bouleversement pour moi. Ça a été une révélation pour moi de première importance. Il me montrait que la joie pouvait être un élément poétique tout aussi bien que la tristesse. Je rejetais avec dégoût et horreur le vers de Musset, les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et je sentis à partir de ce moment-là que la joie pouvait être une sorte d'obligation morale. J'en fis la quête de la joie devint pour moi la raison principale, primordiale de la vie. Elle me parut plus difficile à obtenir de soi que la tristesse, vers laquelle il n'y a qu'à se laisser aller pour obtenir. Et certainement, le souvenir de la roque et de ma solitude à la roque est lié aux premières lectures que je pus faire des élégies romaines de Goethe et des épigrammes vénitiennes.
André Gide qui disait sa dette aux élégies romaines de Goethe. Alors c'est encore un autre ouvrage dont on peut peut-être dire un mot, parce que cet ouvrage raconte un petit peu le bonheur sensuel d'ailleurs que découvre Goethe dans cette ville de Rome, Jean Lacoste.
Oui, c'est un des aspects les plus touchants. Alors c'est un ouvrage qui se distingue du voyage en Italie proprement dit, et qui a fait relativement scandale, parce que s'y exprimait une véritable sensualité d'exaltation. Et Goethe, qui, comme je disais, probablement avait traversé une période de grande frustration, là découvre à Rome, auprès de jeunes femmes, un épanouissement auquel il ne s'attendait pas. Et pour exprimer cette sensualité nouvelle, il a recours évidemment à une des formes classiques empruntées à l'Antiquité. Et ça donne évidemment, sur le sol classique, comme il dit, toute une poésie qui est certainement une des œuvres les plus attachantes de Goethe. Et qu'on pourrait opposer, par exemple, parce qu'il va faire un deuxième voyage un peu plus... En 1790, et là, c'est un voyage, sorte de voyage officiel avec Anna Amalia, la duchesse douairière. Et là, ça sera le voyage de la déception qui va exprimer dans les épigrammes vénitiennes.
En tous les cas, le premier voyage est le voyage de la sensualité qui manquait peut-être à Goethe. Et c'est intéressant de remarquer qu'il quitte Charlotte von Stein, enfin, il quitte l'Allemagne, disons, en laissant derrière lui Charlotte von Stein. Il rencontre donc des jeunes filles, ou peut-être d'une manière plus ou moins vécue, plus ou moins fantasmée. Il y a notamment cette idée d'une certaine Faustine qui lui aurait un peu donné les clés de la ville. Et quand il revient à Weimar, il va rencontrer Christiane Vulpius, qui a 17 ans de moins que lui, dont il va faire sa femme, et qui est une femme aimant le plaisir. Rien à voir donc avec le côté guindé de Charlotte von Stein.
Voilà, oui, et d'ailleurs, ce fut là aussi un objet de scandale, puisqu'il va s'installer avec Christiane dans une maison un peu légère à l'écart de Weimar. Et il est évident que la société aristocratique de Weimar, même si la cour n'était qu'un petit duché assez peu important finalement, mais enfin qui avait tout de même la rigidité des principes ordinaires d'une cour, et c'était un objet de scandale. Et c'est seulement assez tardivement que Goethe a accepté de l'épouser officiellement. Après avoir vu comment elle s'était admirablement conduite lorsque les Français avaient battu les troupes prussiennes, etc., à 1905.
Oui, mais le scandale, c'est aussi l'apparition des élégies elles-mêmes, parce que le poète n'y fait montre d'aucune mélancolie, ni d'aucun dégoût de soi, qui peut être parfois le corollaire à une certaine forme de débauche. Pour Goethe, on a l'impression que le plaisir l'élève, le plaisir découvert en Italie, l'élève au lieu de l'avilir, et ça, c'est scandaleux.
Oui, il y a quelque chose de touchant dans cette œuvre où il dialogue avec des jeunes filles, et c'est une des œuvres les plus durables finalement de Goethe, celle où se concentre le fruit le plus mûr de ce voyage en Italie, mais qui n'était pas dépourvu de mélancolie et de par la contemplation des... Parce qu'en fait, toute cette antiquité dont il cherche à s'inspirer, elle est en ruine. Mm-hmm. Il y a un grand tableau de son ami Tischbein qui se trouve à Francfort et qui est extrêmement célèbre et qu'il représente
et qui est d'ailleurs reproduit sur la couverture de votre édition du Voyage en Italie.
Et ce grand tableau est une sorte d'hommage de cette communauté de peintres allemands à Goethe, et qui le montre en voyageur, qui prend un moment de repos dans une campagne qui est parsemée de ruines de ruines ou de tombeaux.
Donc c'est un portrait ambigu, vous diriez cela ?
C'est un portrait double, c'est-à-dire que on a à la fois la contemplation à la manière de Chateaubriand, des ruines que laisse l'histoire. Il y a un chapiteau, il y a au fond un tumulus funéraire, etc. Et en même temps, Goethe y apparaît comme un homme en marche, si vous voulez, qui s'arrête mais très peu, qui a l'air de reprendre vite son chemin. Il a une attitude presque pas d'homme qui se redresse. Et cette cohabitation des deux messages, finalement, entre d'un côté les ruines laissées par la civilisation antique, puis de l'autre ce désir de vivre, de force, de plaisir qu'il manifeste, c'est le fruit de ce voyage en Italie.
Alors on va continuer justement à en parler de ce voyage en Italie, mais aussi de sa théorie des couleurs avec vous, Jean Lacoste, juste après le traditionnel pas de côté que constitue notre carte blanche du jeudi, laquelle revient, vous allez l'entendre, sur le Faust dont on parlait déjà dans l'émission d'hier.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jeudi proposé aujourd'hui par Olivier Barbaran, inspecteur général de l'éducation nationale, mais également poète et spécialiste de la poésie d'Aragon. Bonjour à vous, Olivier.
Bonjour, cher Mathieu.
Alors, vous nous parlez aujourd'hui du dernier Goethe, et en particulier du personnage d'Euphorion, fils de Faust et de Marguerite, dans sa pièce Faust II.
En effet, le dernier Goethe n'a pas toujours bonne presse, et le portrait apollinien du sage de Weimar détourne souvent les admirateurs des souffrances du jeune Werther. Le second Faust, dont je vais parler, sur lequel Goethe travailla de 1825 à 1831, soit à partir de ses 75 ans, passe pour confus et dissertant. Souvenons-nous des vers de Verlaine, c'est plutôt le sabbat du second Faust que l'autre. Imaginez un jardin de le nôtre, certes, mais correct, ridicule et charmant. Qu'une forme de classicisme revienne après les belles tempêtes du Sturm und Drang, il est aussitôt suspect de n'être qu'un retour à l'ordre. Mais c'est de ne pas partager un tel préjugé que je voudrais faire ici l'éloge d'Euphorion. Sous ce nom splendide, dont l'étymologie dit assez le dynamisme, se cache en effet un personnage de l'acte 3 du second Faust. La gloire des amours de Faust et de Marguerite a un peu éclipsé celle du second Faust avec Hélène, l'Hélène de Troie. Aux sources médiévales du personnage s'ajoutent alors nombre de références à la mythologie antique. On y a vu comme une saturation, ou comme le dit Verlaine, un anachronique jardin de Lenôtre plein de dieux morts aux faces de stuc. Reste à mon sens un défi fou. Faust est devenu un nouvel Orphée, puisqu'il est un des rares êtres à être à son tour descendu aux enfers pour arracher au royaume des morts la plus belle femme du monde et de tous les temps. De leur amour naît un fils, Euphorion. Si la pièce n'a pas la linéarité narrative du premier Faust et fonctionne plutôt par tableau, elle ne manque pas d'organisation. Apparu et disparu à la scène dernière de l'acte 3 et centrale, Euphorion incarne le triomphe de l'amour heureux, mais sa mort fera Hélène choisir de replonger aux enfers pour l'y rejoindre. Faust, qui savourait un plein bonheur dans des berceaux de verdure, ne tiendra bientôt plus entre ses doigts que le vêtement et le voile d'une Hélène effacée sous ses yeux, avant que les vêtements eux-mêmes ne se dispersent en nuages. Une scène clé donc. L'entrée d'Euphorion est d'ailleurs savamment préparée. En plein éloge du paysage, une voix nous dit qu'un éclat de rire soudain éveille l'écho de ces grottes spacieuses, puis un génie, sans ailes, nu, bondit sur le sol résistant, mais le sol réagissant le renvoie bien haut dans l'air, et au second, au troisième bond, il touche déjà à la voûte étoilée de la grotte.
Donc Euphorion, c'est un personnage à la fois joyeux et bondissant.
Oui, heureux, beau, jeune, d'une sauvagerie sans bestialité, prévient cependant Goethe. Cette admirable créature évoque la légèreté d'Ariel, autre esprit aérien de la tempête de Shakespeare. Même vivacité, même appétit de vie dont la traîne ne doit pas disparaître quand le personnage ainsi célébré rentre enfin en scène et que le vers de Goethe se fait court, aussi chantant que l'euphorie. Laissez-moi donc bondir, laissez-moi sauter, au plus haut des airs est mon désir. Le bon joyeux des vers ouvre peu à peu sur une plus dangereuse frénésie. Ce qu'on saisit sans peine me répugne, seul me réjouit ce qu'on conquiert par force. Admirable évolution en peu de lignes d'un personnage pour dire les ambivalences du soulèvement lyrique, les feux et les gouffres du désir, le joyeux chérubin passe les bornes, devient sous nos yeux et malgré les avertissements de ses parents l'autre face de la jeunesse, celle du goût de l'absolu dont l'excès ne manque pas de conduire à la catastrophe. Pourquoi étoufferais-je dans ces étroites limites, demande Euphorion, tandis que le cœur révèle ce que représente cette poitrine d'airain en chantant « Sainte poésie monte vers le ciel ». Fils de Faust Orphée de la beauté d'Hélène, Euphorion est le lyrisme qui s'écrit depuis les hauts sommets où il est monté « Laissez-moi voler » avant de s'effondrer sur le sol. « Icare, Icare !» crie alors le cœur, tandis que le bel adolescent s'affaisse aux pieds de ses parents, que son auréole monte au ciel, tandis que le manteau et la lyre restent à terre, preuve d'ailleurs qu'à la différence du voile d'Hélène retournant avec elle aux enfers, la lyre est d'ici-bas, qu'elle naît de la terre et rivalise avec les cieux sans rien leur devoir. Faust Orphée a donc mis au monde Euphorion Icare, symbolisant avec la poésie la belle et suicidaire démesure des désirs juvéniles. Goethe ajoutera après coup à cette tapisserie de réminiscence l'image de Byron, qui venait de mourir à Missolonghi en 1826. On voit donc combien le second Faust, en effet, superpose les références, mais ceux qui le lui reprochent tentent de déchiffrer des allégories, au lieu de se laisser porter par le chant d'un théâtre qui tient ici de l'opéra. Goethe avait pourtant lui-même averti en déclarant à Eckermann le 6 mai 1827 « Et ayez donc enfin une fois le courage de vous laisser aller à vos impressions, de vous laisser récréer, de vous laisser émouvoir, enflammer, encourager pour quelque chose de grand, et ne pensez pas toujours que tout serait perdu si on ne pouvait découvrir au fond d'une œuvre quelque idée, quelque pensée abstraite. »
Mais alors, est-ce que la mort d'Euphorion ne marque pas une sorte de condamnation de la démesure ?
En effet, les malheurs d'Euphorion renvoient à l'ultime leçon du sage de Weimar. La transcendance de l'homme n'est pas dans l'aspiration vers l'inaccessible étoile, mais dans l'affrontement avec le monde qui est le sien. Mais l'avertissement contre la démesure peut-il oublier qu'on en a fait jouer un à un sur scène tous les charmes ? La sérénité de Goethe n'a donc rien d'un goût bourgeois, juste milieu pour la modération, autrement dit d'une manière de se vautrer en prenant son aplatissement pour de la sagesse. Euphorion est beaucoup trop beau pour n'être qu'un repoussoir. L'acceptation de la condition humaine, dans le second Faust comme dans la vie de Goethe, ne se construit que sur le socle d'une démesure désirable. Apprivoiser Euphorion, voilà la tâche que nous propose le vieux Goethe. Et sa sérénité n'est donc pas le déni de l'élan. Elle est peut-être plutôt un exemple de ce que René Char appellera bien plus tard une sérénité crispée.
Merci beaucoup Olivier Barbaran pour ce passionnant éclairage sur le dernier Goethe et sur le personnage d'Euphorion dans le Faust 2. À très bientôt. C'est encore et toujours la compagnie des œuvres sur France Culture. Dernier moment de notre série consacrée à Goethe, l'universel, capable de parler de tout, y compris de ces choses évanescentes et poétiques, mais également scientifiques, que sont les couleurs.
Les êtres humains éprouvent en général une grande joie à la vue de la couleur. L'œil a besoin d'elle, tout comme il a besoin de la lumière. Qu'on se rappelle le réconfort qu'on connaît quand, par un jour couvert, le soleil brille sur une partie de la région et qu'il y rend visibles les couleurs, que l'on ait attribué une vertu thérapeutique aux pierres précieuses de couleur. Voilà qui est peut-être né du sentiment profond de ce bien-être inexprimable. Une couleur prise isolément suscite dans l'œil, au moyen d'une sensation spécifique, la tendance à retrouver la figure générale. Afin de percevoir dès lors cette totalité, afin de se satisfaire lui-même, il cherche à côté de tout espace coloré un espace qui soit incolore, dans le but d'engendrer sur celui-ci la couleur exigée. Quand l'artiste se laisse aller à son sentiment, aussitôt s'annonce à lui quelque chose de coloré. Dès que le noir tourne au bleuâtre, surgit une exigence de jaune que l'artiste répartit alors selon son instinct et place tantôt pur dans les lumières, tantôt rougi et sali devenu brun dans les reflets, pour donner vie à l'ensemble au plus judicieusement qu'il lui paraît. L'assemblage d'objets colorés, de même que la coloration de l'espace dans lequel ils sont contenus, doit s'effectuer selon les buts que s'est fixé l'artiste. Ce qui est ici particulièrement nécessaire, c'est la connaissance de l'effet des couleurs sur la sensibilité, tant isolée qu'en assemblage.
Une lecture par Quentin Bayot. Alors Goethe est tout à la fois du côté de l'appréciation sensuelle des couleurs que dans un questionnement scientifique à leur sujet, Jean Lacoste. Il y a ces deux aspects.
Oui, je crois qu'à ce stade, il faut faire un effort d'adaptation à l'histoire. C'est-à-dire que Goethe se trouve à un moment très particulier de l'histoire des sciences où il est encore possible à ce qu'on pourrait appeler un amateur de tenter une contribution scientifique, ce qui aujourd'hui nous paraîtrait totalement impossible, peut-être à tort, mais donc Goethe s'est intéressé à la question des couleurs pour diverses raisons, mais en particulier, comme je l'ai dit, par la fréquentation des peintres. C'est là qu'il a découvert un certain nombre de secrets des peintres. Et en particulier cette idée qui était exposée dans le texte qui vient d'être lu de la totalité des couleurs, c'est-à-dire que ce qu'on conçoit très bien maintenant, c'est qu'une couleur en appelle une autre par complémentaire ou par opposition, et que cela forme un système. Et c'est ça qu'il a essayé de mettre en présentation avec son fameux cercle des couleurs qui permet de voir un peu quel lien il y a entre le jaune et le bleu qui donne du vert, chose que n'importe quel petit enfant sait maintenant.
Oui, d'instinct. Mais est-ce qu'il s'est trompé aussi sur... parce que justement, vous dites que c'était un scientifique amateur par rapport à Newton auquel il s'est opposé. Alors, est-ce qu'il s'est trompé?
Oui, alors il s'est trompé par rapport à Newton, clairement. Si l'on prend la composition de la lumière blanche. Mais ce qu'il a saisi, et ce dont on peut le créditer, c'est d'avoir saisi la vision, subjective et impressionniste des couleurs, le jeu des couleurs. Ce que, après tout, n'est pas véritablement une erreur, c'est un point de vue sur les couleurs, sur leur combinaison, sur leur harmonie, sur l'influence qu'elles peuvent avoir, etc.
Traiter des couleurs, les physiciens donnent raison à Newton contre Goethe. Goethe était parti en guerre contre Newton. À un siècle d'écart, ne pouvait pas imaginer ou accepter l'idée que la lumière blanche pouvait se décomposer en rayons colorés. Alors il a cherché à lutter contre Newton sur le plan de la physique, c'est un peu cassé les dents, mais il a fait aussi œuvre de sociologue, d'anthropologue et de poète autour de la couleur, et là il dit des choses qui sont restées très pertinentes. Il y a notamment chez Goethe cette phrase extraordinaire qui résume tous les problèmes de la couleur. C'est une question, il se demande, est-ce qu'une robe rouge est encore rouge lorsque personne ne la regarde ? Je crois que c'est la phrase la plus forte jamais écrite sur la couleur. Et la réponse pour lui est non, et pour
et
moi
pour
c'est
aussi
non aussi. Oui, si, s'il n'y a pas un spectateur, l'homme est à la rigueur l'animal, mais c'est-à-dire quelqu'un qui regarde avec son bagage culturel, ses connaissances, son imagination, ses humeurs, le phénomène couleur n'existe pas. C'est le regardeur, et pas le regardeur individu seulement, mais la société qui fait la couleur. Alors qu'un physicien, par exemple, pourra très bien imaginer que l'on soit dans une pièce vide, qu'il y ait une lumière, un objet éclairé par cette lumière, et puis un appareil enregistreur qui mesure des longueurs d'onde, et pour le physicien, il y aura phénomène couleur. Pour l'historien, non.
Vous avez probablement reconnu Jean Lacoste, l'historien Michel Pastoureau, qui parlait de la couleur avec Francesca Isidori dans une émission qui s'appelait, figurez-vous, Les Affinités électives. Ça ne s'invente pas. Donc l'Italie, c'est aussi sans doute un pays, un ciel qui lui a permis de réfléchir sur la couleur et sur la lumière et d'affiner finalement sa théorie à son sujet.
Peut-être dire que, en fait, ses études sur les couleurs s'inscrivent aussi dans, chez lui, dans toute une démarche scientifique, parce que il est aussi intéressé par la botanique, par la quête de la plante et de la métamorphose des plantes, qui vient se combiner à sa réflexion sur les couleurs, quelque chose qui va le hanter jusqu'à sa mort, puisque en 1832, quand il meurt, je crois que la légende veut qu'il ait été en train de corriger des textes sur les couleurs. Mais comme je disais, tout cela s'inscrit dans un paradigme, pour employer un mot un peu savant, dans un paradigme différent de la science qui était un tournant où Newton n'a pas encore totalement gagné et où il est encore possible d'avoir une sorte de vision hérétique. Je puis dire des couleurs. Et l'intérêt de la chose, c'est que ça conduit à une histoire des sciences et à une réflexion sur l'organisation des sciences et sur les académies et sur. Il faut reconnaître que à la fois tout est fondé peut-être sur une erreur physique, mais en même temps toutes ces idées peut-être contestables forment un ensemble. D'une intellectuelle d'une grande richesse. Il y a des intuitions sur l'histoire des sciences qui sont quand même précieuses.
Donc Goethe scientifique, Goethe évidemment artiste et écrivain. Est-ce qu'on peut parler dans le voyage en Italie d'un Goethe ethnologue, c'est-à-dire d'un homme qui s'intéresserait et qui souhaiterait s'intéresser au peuple italien pour ne pas être un touriste comme les autres ?
Absolument. Il y a un cas très particulier, c'est à Naples, quand il arrive à Naples, il s'intéresse au sort des petites gens, des gens pauvres de Naples, de la Lazzaroni aussi. Donc, et il apporte un regard de compréhension qui, paraît-il, était salué par Gramsci, qui montre bien la dimension humaine qui était la sienne même. Et donc, il y a d'autres exemples de cette compréhension. Par exemple, quand il arrive en Italie, dans les premières heures de sa fuite ou de sa descente, il s'intéresse aux manières un peu particulières dont les Italiens mesurent avec un schéma, etc., qui encore une fois surprenait beaucoup dans un ouvrage de consacré, semble-t-il, à un voyage en Italie. C'était quelque chose de trop terre-à-terre.
Et d'assez original, mais il s'intéresse aux Italiens, mais il s'intéresse aussi aux touristes, je le disais, aux non-Italiens qui viennent visiter la péninsule. Oui. Et ça, quand même, c'est étonnant, parce que lui-même, qui est un simple touriste aussi, a du mal, finalement, à les supporter vraiment.
Oui, mais il admet aussi lui-même est en partie un touriste, donc le point de vue est disons assez riche et équilibré. Mais c'est certain que il a quand même préféré être dans le, puisque je disais que le voyage en Italie était une sorte de métamorphose. Il est resté dans le cocon comme un papillon, enfin une chenille ou un papillon, dans le cocon des peintres allemands de Rome.
Est-ce que on peut dire un mot sur le rapport à l'exotisme de Goethe? Pour lui, ce pays, l'Italie, et en particulier la Sicile, parce que c'est la Sicile qui compte aussi après Rome le plus, c'est très différent de ce qu'il connaît.
Ah oui, c'est un autre univers, et en particulier la Sicile. Pour lui, la Sicile, ce n'est pas simplement une partie de l'Italie, c'est la Grèce, c'est la grande Grèce. C'est comme vous le.
Donc c'est la mythologie.
C'est Homère qu'il rencontre, et en même temps c'est la botanique, et c'est cette il s'exclame, tout est feuille, Alcisplat, hein, tout est feuille, tous les organes de la plante partent d'une feuille. Donc il y a toujours ce mélange, c'est pour ça que je parlais d'un paradigme un peu particulier, cette coexistence chez lui de la sensibilité artistique, de la sensibilité perceptive, des réflexions sur la science et la littérature, puisqu'il réfléchit sur la limitation des Grecs et de la poésie latine. Donc il y a une richesse de direction ou de dossier ou d'intérêt qui correspond à une époque qui va disparaître très très rapidement avec, me semble-t-il, une vision plus romantique et qui est plus à distance de la science.
Allez, un dernier extrait du Voyage en Italie.
À mon départ, je sentis une douleur toute particulière en quittant sans espoir de retour cette capitale du monde dont on fut quelque temps citoyen. On éprouve un sentiment qu'on ne peut ni exprimer ni communiquer. Je ne cessais de me redire en ce moment l'élégie d'Ovide, qu'il composa quand le souvenir d'un sort pareil le poursuivit jusqu'au bout de la terre habitée. Ces distiques me revenaient toujours au milieu de mes impressions. Mais je ne pus longtemps répéter cette expression étrangère de mes propres sentiments sans être obligé d'en faire à ma personne, à ma situation, l'application la plus particulière. Ces douleurs s'étaient identifiées avec les miennes, et dans mon voyage, cette activité intérieure m'occupa bien des jours et des nuits. Toutefois, je me gardais d'écrire une ligne, de peur que ce souffle délicat de douleur intime ne vînt à s'exhaler. Je ne regardais presque rien pour ne pas me laisser distraire de cette douce souffrance. Mais bientôt, il me fallut reconnaître combien le monde paraît beau quand nous l'observons avec des sens émus.
Lui cette fois-ci par Georges Perron. Au final, Jean Lacoste, est-ce que Goethe est réellement un grand voyageur, voire même ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un écrivain voyageur à la manière, c'est un peu anachronique comme comparaison, mais je ne sais pas, d'un Nicolas Bouvier?
Franchement, non. Je crois que précisément le reste de sa vie, il va le passer à Weimar, et il va prendre comme un signe du destin une tentative un jour de descendre en Italie, une nouvelle tentative, et puis ça s'arrête assez vite parce que la voiture qu'il empruntait casse son essieu, et il y voit un peu à la manière romaine un mauvais présage. Et je crois que il y a chez lui, c'est pour ça que j'avais intitulé la préface La nostalgie du voyageur, c'est que il va se replier sur Weimar, et ce n'est pas un voyageur, un écrivain voyageur. C'est un écrivain qui a voyagé,
Mais c'est d'abord un écrivain, c'est-à-dire que le voyage compte surtout pour pouvoir le raconter.
Oui, mais une fois la métamorphose accomplie, il a le sentiment sans doute que l'œuvre est à faire, notamment le Faust et puis les différents romans. Mais je crois qu'il faut à l'honnêteté de dire que ce n'est pas un écrivain voyageur au sens où on peut l'entendre, mais c'est un écrivain qui s'est métamorphosé lors d'un voyage,
oui,
un voyage capital chez lui.
Ou alors, c'est un écrivain pour qui ce qui compte vraiment, c'est le retour à la maison. Et là, on rejoint peut-être le thème d'Ulysse.
Oui, absolument. C'était la nostalgie de l'île d'Ithaque et de Pénélope. Et il n'est pas question de Pénélope dans le retour de Goethe, puisque Charlotte von Stein se rompt avec lui naturellement, et comme vous l'avez dit, il épouse une ouvrière en fait. Mais c'est un voyageur qui rêve d'arriver à son but. Et de revenir chez lui.
Et de revenir chez lui, peut-être avec un butin. Alors, vous en parlez aussi, Jean Lacoste. Ce butin, ce serait des petits objets, monnaie, fossiles, dessins, médailles, cartes, plans, etc. Et puis, son butin, c'est évidemment tous les souvenirs qu'il a amassés.
Oui, et il le dit dans une lettre à Charlotte von Stein, qui va écrire qu'il accumule comme ça des souvenirs qu'il sera agréable d'évoquer quand il sera de retour. Bien entendu, il y avait là soit de la naïveté, soit un grand cynisme, parce que Charles von Stein n'a pas souhaité regarder les souvenirs de ce voyage, de ce séjour de 2 ans à Rome, à Naples et en Sicile.
Est-ce qu'il y avait une utopie italienne, et est-ce que cette utopie était un mirage, ou est-ce qu'il a été déçu finalement de ce voyage en Italie?
C'est le voyage de 1790, le deuxième de tentative qui va véritablement le décevoir et qui va évoquer dans les épigraphes vénitiennes avec les prostituées, etc. Quelque chose qui est beaucoup plus dur et plus scandaleux même. Tandis que le voyage en Italie lui-même, dans toutes ses composantes, parce que c'est un mélange de souvenirs et de lettres et de récits, c'est un patchwork en fait. Ce voyage en Italie est quand même fasciné par le pays. Ça, c'est quelque chose qui est très profond dans l'âme allemande, si on peut l'évoquer aussi naïvement. C'est la contribution majeur à l'idéalisation de l'Italie, malgré le regard réaliste que j'évoquais au début.
Ben merci beaucoup Jean Lacoste de nous avoir parlé si bien aujourd'hui de ce voyage en Italie de Goethe. Pour aller plus loin, on peut se procurer votre édition justement de ce voyage en Italie chez Bartilla ou dans la collection Omnia Poche, toujours chez Bartilla. Il y a également à signaler votre Goethe, la nostalgie de la lumière, livre paru celui-ci chez Belin. La compagnie des œuvres, c'était aujourd'hui Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Romain Billet et Baptiste Lénard. Et demain, c'est Manu Farine que vous retrouverez à cette même heure pour la compagnie des poètes. Quant à moi, je vous dis à lundi avec le premier jour de notre semaine consacrée, figurez-vous, à Agatha Christie.